Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre les derniers versets de l'Évangile de saint Matthieu. Ces versets nous montrent Jésus ressuscité se manifestant au groupe des 11 disciples. Et d'après notre évangéliste, c'est même l'unique apparition de Jésus aux apôtres. Matthieu la place à la fin de son évangile, certainement pour qu'elle se grave bien dans nos mémoires et continue de résonner en nous. Or, cette apparition réservée aux apôtres a lieu en Galilée. C'est là où Jésus avait commencé à les appeler à lui. Et c'est là qu'il leur donne rendez-vous, d'ailleurs par la voix des femmes devenues ses premières envoyées, ses premières messagères le matin de Pâques. Si Jésus donne à ses disciples ce rendez-vous spécial en Galilée, dans cette terre qu'on pourrait nommer la terre de leurs origines, n'est-ce pas pour les assurer de son amour inébranlable pour eux, de son amour qui est à leur origine et précède même toute leur réponse, aussi parfaite ou imparfaite qu'elle soit, capable de les serrer toutes contre lui, de les accepter en leur pauvreté et incohérence même. Et de fait, les apôtres n'ont-ils pas d'urgence besoin de retrouver cet appui ferme qui permettra à leur cœur de se rouvrir à la confiance, de sortir ainsi de l'impasse de la culpabilisation, de sortir de la spirale d'accusation de soi et des autres dans laquelle les événements du Vendredi Saint les avaient plongés. Maintenant, les disciples n'ont pas besoin de discours, mais d'une parole simple qui deviendra pour eux à la fois une sorte de colonne vertébrale leur permettant de se redresser, et comme une colonne lumineuse, chaleureuse, qui les accompagnera toujours à travers toute leur vie. N'est-ce pas pour cela que Jésus leur adresse maintenant des paroles d'une infinie densité ? Des paroles qui semblent sortir de l'intérieur d'un feu, du feu de son amour miséricordieux et insondable. Des paroles prononcées par la voix d'un amour plus fort que la mort. Par ces paroles qui concluent l'évangile de Matthieu, Jésus révèle et confère aux disciples un triple don. Il leur donne d'abord la révélation d'un mystère, raison bien valable d'une confiance sans borne. Ensuite, il leur confie une tâche, une nouvelle tâche, une mission sans limite. Et troisièmement, il leur donne une promesse qui dépasse absolument tout ce qu'un cœur humain peut imaginer. Le premier don, la raison d'une nouvelle confiance, c'est la révélation de la profondeur même du mystère de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Cette parole ne nous est-elle pas nécessaire à nous aussi? Et avons-nous bien compris ce que dit Jésus ici? Avons-nous remarqué le verbe au passif « m'a été donné » Dans la Bible, c'est bel et bien le signe d'une action divine. C'est donc le signe que Jésus déclare clairement l'origine de son pouvoir. Or, cette origine sans origine, n'est-ce pas le Père? De fait, Jésus, tout au long de son ministère, mais plus particulièrement à la veille de sa passion, ne s'est-il pas déclaré le Fils à qui le Père a tout donné? En son humanité désormais glorieuse, assumée dans la gloire divine, ne participe-t-il pas à la puissance créatrice du Père? Cette puissance qui peut donner, créer la vie, la sauver, là où ne semble dominer que la mort, là où les forces du mal semblent s'imposer définitivement et l'emporter. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de la toute-puissance divine. Éveillons à ne pas projeter nos idées ou nos envies de domination sur l'amour du Fils livré pour nous, sur l'amour du Fils démuni pour nous et qui sait ouvrir les cœurs, même le nôtre, afin de les remplir d'une nouvelle capacité, d'une nouvelle puissance, d'une puissance de vie, la capacité de trouver des chemins de réconciliation, de paix, de vraie fraternité. Voilà le sens de la toute-puissance de Jésus ressuscité. Oui, vraiment, le Christ ressuscité n'est-il pas le Fils uni au Père et livré pour nous afin de nous attirer dans sa communion avec le Père? Et les 11 disciples, de leur côté, se ressaisissent lentement. Ne commencent-ils pas maintenant à comprendre qu'ils ne constituent nullement un ramassis de gens qui ont besoin de se méfier les uns des autres, mais des personnes introduites par le Fils dans une communion d'amour, dans la communion avec le Père sous la motion de l'Esprit, introduite dans cette communion qui affranchit les cœurs, qui libère toutes les énergies, toutes les audaces, tous les désirs nobles du cœur. Ne commence-t-il pas, enfin, à comprendre que l'Assemblée sainte, l'Église, que Jésus a voulu fonder, n'est pas une structure vide, à la limite pourvue de quelques embellissements jolis, mais une communion vivante, une communion réalisée et à réaliser patiemment, pas à pas, avec la modestie de la ténacité, une communion issue de la communion débordante de vie du Dieu un et trine. C'est maintenant où les 11 ont fait l'expérience aussi bien de devoir apprendre à dire oui à leur propre fragilité que d'apprendre à se laisser aimer par celui qu'ils avaient abandonné. C'est maintenant qu'en toute tranquillité, Jésus peut leur confier un deuxième don, la mission de dilater aux dimensions du monde la nouvelle réalité qui s'est donnée et révélée à eux, la réalité de la communion trinitaire. Conscients d'un amour absolument inconditionnel et fiable qui les précédera toujours, les disciples désormais peuvent aller jusqu'aux plus éloignés afin de les convier à se laisser plonger eux aussi dans la communion du Père et du Fils dans l'Esprit. Mais quel débordement de consolation que le troisième don, annoncé en finale de l'évangile de Matthieu. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'avez-vous vraiment entendu? Tous les jours? Le cœur humain aurait-il pu inventer ce don? N'est-il pas comme le dernier son d'une sonate ou d'une symphonie qui nous arrache à nous-mêmes dans une extase de joie? Ce dernier son de la bonne nouvelle selon Matthieu n'est-elle donc pas digne de résonner encore longtemps dans nos cœurs, de l'habiter tous les jours et de plus en plus ?